de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Biden décide d'arrêter les attaques de drones en dehors des zones de guerre américaines. L'Arabie Saoudite a rapporté la Omra après l'Aïd de cette année. Un tribunal malais autorise des groupes de défense des droits à exiger l'expulsion des ressortissants de la Birmanie. L'Australie étend son programme de subvention salariale pour les apprentis. Le sud-est de Sulawesi exporte 25 300 crabes de boue à Singapour. L'Union européenne explore les opportunités d'investissement et de commerce dans le centre de Java. Et Singapour espère rester le plus gros investisseur en Indonésie. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. Biden décide d'arrêter les attaques de drones en dehors des zones de guerre américaines. Le président des États-Unis, Joe Biden, arrête les attaques de drones en dehors de la zone de guerre où opèrent leurs forces militaires. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, lors d'une conférence de presse lundi citée par la AFP. Kirby a déclaré que toute frappe de drone planifiée contre des groupes djihadistes en dehors de l'Afghanistan, de la Syrie ou de l'Irak doit passer par l'approbation de la Maison-Blanche. Kirby a décrit la politique comme des lignes directrices provisoires publiées pour s'assurer que le président a une visibilité totale sur les actions importantes proposées. L'Arabie Saoudite a rapporté la Omra après l'Aïd de cette année. Les autorités saoudiennes ont rapporté le pèlerinage de l'Omra après la fête de l'Aïd al-Fitr de cette année en raison du rythme plus lent de la normalisation post-pandémique. Cela a été annoncé par des responsables religieux turcs dans un communiqué mardi. L'Aïd al-Fitr a lieu après le mois sacré du Ramadan, qui se termine cette année à la mi-mai. La direction des affaires religieuses turques a publié la déclaration en réponse aux questions du public concernant le Hajj et la Omra de cette année, après que les deux services ont été temporairement abolis l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Il a également déclaré que les négociations avec le ministère du Hajj Il a également déclaré que les négociations avec le ministère du Hajj et de la Omra d'Arabie Saoudite pour 2021 sont toujours en cours et que toutes les décisions qui ont été prises par les autorités seront annoncées au public. Un tribunal malais autorise des groupes de défense des droits à exiger l'expulsion de ressortissants de la Birmanie. Le tribunal malaisien a autorisé mardi des groupes internationaux de défense des droits humains à poursuivre le tribunal pour la récente expulsion de plus de 1000 ressortissants birmans vers leur patrie. Cela a été dit par un avocat des groupes à Reuters. Le gouvernement malais a expulsé des citoyens de la Birmanie le mois dernier. Quelques heures à peine après qu'un tribunal a temporairement interdit leur départ, avant les audiences d'Amnesty International et les demandes d'accès à l'asile visant à abandonner le plan. La décision de la Haute Cour de Kuala Lumpur mardi a été rendue malgré les lois malaisiennes qui interdisent à quiconque de contester une décision prise par les autorités d'immigration. Le département de l'immigration n'a pas encore répondu à la décision du tribunal. L'Australie étend son programme de subvention salariale pour les apprentis. L'Australie a dépensé 1,2 milliard de dollars australiens, soit environ 13,2 billions de roupies, pour étendre le programme de subvention salariale pour les apprentis. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre australien Scott Morrison mardi. Le programme de 70 milliards de dollars australiens, connu sous le nom de JobKeeper, dans le cadre duquel le gouvernement accorde des subventions aux travailleurs, les entreprises endommagées par la pandémie de coronavirus qui durera jusqu'à la fin du mois de mars. Morrison a déclaré que le programme serait remplacé par une relance ciblée. La première étape est une extension du programme pour payer une partie des salaires des apprentis. Morrison a déclaré que le rapport national de la semaine dernière montrait que le retour de l'économie australienne était en cours. Le programme d'apprentis australiens obligera le gouvernement à payer la moitié du salaire de stage jusqu'à un maximum de 7 000 $ ou environ 100 millions de roupies chaque trimestre pendant 12 mois. Le sud-est de Sulawesi exporte 25 300 crabes de boue à Singapour. Quarantaine du poisson, contrôle de la qualité et de sécurité des produits de la pêche BKIPM Kendari Sulawesi du Sud-Est a noté qu'en 2021, les entrepreneurs du Sud-Est de Sulawesi sont revenus pour exporter des produits de la pêche vivants sous forme de crabe de mangrove à Singapour. C'est ce qu'a déclaré mardi le chef du BKIPM Kendari Amdali Aditama Kendari. Il a déclaré que l'exportation de crabes de mangrove par les entrepreneurs locaux a de plus en plus contribué au revenu original régional du sud-est de Sulawesi provenant du secteur de la mer et de la pêche. Selon lui, le sud-est de Sulawesi était auparavant désavantagé par un certain nombre de produits fournis en Surabaya, et Makassar n'était alors exporté que de sorte qu'il ne portait pas de nom sur l'étiquette des produits du sud-est de Sulawesi. Cette percée directe à l'exportation, selon Amdali, est très stratégique pour le développement économique du sud-est de Sulawesi, car la porte pour les exportations vers les pays étrangers se fait uniquement par Makassar, Sulawesi du Sud ou Surabaya, à l'est de Java. L'exportation directe des produits de la pêche via l'aéroport de Haluoleo a commencé depuis 2018. Pendant ce temps, le chef du Bureau de l'industrie et du commerce du sud-est de Sulawesi, Siti Saleha, a déclaré que Singapour était le principal marché pour les produits de crabes de mangrove du sud-est de Sulawesi. L'Union européenne explore les opportunités d'investissement et de commerce dans le centre de Java. ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Piquet, explore mardi les opportunités d'investissement des commerces à travers des visites de travail virtuelles aux parties prenantes dans la province de Java centrale. C'est ce qu'a déclaré Vincent Piquet lors d'une conférence de presse à Jakarta, comme l'a rapporté en terrain mardi 9 mars. Il a déclaré que l'Union européenne était très favorable à l'Indonésie dans ses efforts pour accroître le commerce et les investissements, en particulier dans le centre de Java. L'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne, actuellement en cours de négociation, augmentera le commerce et les investissements, contribuera à la création d'emplois et au développement économique en Indonésie. Selon Vincent Piquet, le gouvernement provincial du centre de Java a pris un certain nombre de mesures pour faciliter l'octroi des licences d'investissement et accélérer la préparation des infrastructures dans la province. La réunion visait également à accroître la compréhension des avantages qui peuvent être obtenus de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Union européenne. Pendant ce temps, le gouverneur du Java central, Ganjar Pranowo, a apprécié la table ronde sur les avantages du CEPA. Singapour espère rester le plus gros investisseur en Indonésie. Singapour espère maintenir sa position de plus gros investisseur en Indonésie à travers de la ratification du traité bilatéral d'investissement TBI que les deux pays ont signé en octobre 2018. C'est ce qu'a déclaré le ministre singapourien du commerce et de l'industrie, Chan Chun Sing, lors d'un échange d'instruments de ratification de TBI avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Omar Sudi, qui a eu lieu virtuellement mardi. Selon Chan, la promulgation de TBI, même au milieu de la pandémie COVID-19, renforcera pas seulement les partenariats, mais enverra également un signal important aux deux pays et aux autres partenaires de la région concernant l'engagement de Singapour et de l'Indonésie à continuer à développer les relations économiques. Sur la base des statistiques gouvernementales, Singapour est le plus gros investisseur en Indonésie avec un investissement total de 9,8 milliards de dollars américains, environ 140,4 billions de roupies en 2020, soit une augmentation significative par rapport à 6,5 milliards de dollars américains, environ 93,1 billions de roupies en 2019. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Attention spéciale aux femmes affectées par les conflits et les pandémies ». Vous êtes avec moi Audrey. Chers amis, les Nations Unies accordent une attention particulière à la Journée internationale de la femme le 9 mars. Cette année, l'ONU a publié un rapport sur l'importance de prêter attention aux femmes qui souffrent de conflits et de guerres, ainsi que sur l'impact de la pandémie COVID-19. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, UNOCHA, est particulièrement concerné par les réfugiés au Yémen. Selon l'UNOCHA, le conflit prolongé au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, a déplacé 4 millions de personnes principalement vers le Yémen. Sur les millions de réfugiés, près de 3/4 sont des femmes et des enfants. Ces femmes sont obligées de lutter pour subvenir aux besoins de leur famille au milieu de la souffrance dans les camps de réfugiés. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, accorde également une attention aux femmes de divers pays. Elle a publié une déclaration très préoccupante. L'Agence des Nations Unies affirme qu'une femme sur 3 dans le monde a souffert de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a révélé qu'il y avait des données surprenantes montrant que la violence contre les femmes avait augmenté en nombre pendant la pandémie de COVID-19. En relation avec cette triste réalité, l'UNOCHA et l'OMS appellent à prendre des mesures pour défendre les droits des femmes et s'efforcent de leur créer un avenir égal. En plus d'appeler à la prévention de la souffrance des femmes, en particulier dans les camps de réfugiés, ainsi que de la violence dans la vie quotidienne, l'ONU demande aux gouvernements de différents pays de faire des efforts dès le plus jeune âge. Une étape concrète qui peut être franchie est de sensibiliser à l'égalité des femmes depuis l'école. Grâce à des programmes éducatifs, les étudiants de sexe masculin comprennent et prennent conscience de l'importance de l'égalité pour les femmes. Les notes publiées par l'Agence des Nations Unies dans le cadre de la Journée mondiale de la femme ont certainement besoin de l'attention des gouvernements du monde entier. Que ce soit dans les pays développés, en développement et économiquement sous-développés, ainsi que dans les pays frappés par des conflits prolongés. Une indication de l'augmentation de la violence contre les femmes pendant la pandémie COVID-19, rappelant à toutes les parties de ne pas se concentrer uniquement sur les soins de santé et la prévention contre elles. Il est très important de faire des efforts pour surmonter les impacts qui découlent d'une perspective économique, parce que, comme l'a déclaré l'OMS, de mauvaises conditions économiques peuvent encourager davantage de violences à l'égard des femmes. Bon, cher Jolitard, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 mars 1906, explosion à la mine Corrière en France. L'explosion de la mine de Corrière dans le nord de la France le 10 mars 1906 a été décrite comme l'un des pires accidents industriels de l'histoire de l'humanité. L'explosion de la mine a causé la mort de 1099 mineurs. Environ 500 mineurs ont pu atteindre la surface pendant plusieurs heures immédiatement après l'explosion. Beaucoup d'entre eux ont souffert de graves brûlures et des effets de gaz minière. Jusqu'à présent, la cause de l'explosion est inconnue. L'autre information est sur la politique monétaire Gunting Shafruddin le 10 mars 1950. Gunting Shafruddin est une politique monétaire stipulée par Shafruddin Prawira Negara, le ministre des Finances du cabinet Hatta Deux qui est entré en vigueur le 10 mars 1950. Selon la politique, l'argent rouge ou argent Nika est l'argent de la banque de Java de dénomination de 5 rupias et plus ont été occupés en deux. Du 22 mars au 16 avril, la partie gauche de l'argent doit être échangée contre des nouveaux billets dans les banques et lieux désignés. Au-delà de cette date, le côté gauche n'est pas valide. La découpe à droite est déclarée invalide, mais peut être échangée contre des obligations d'État à la moitié de la valeur initiale et sera payée 40 ans plus tard à un taux d'entrée de 3% par an. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 mars 1977. Le satellite indonésien Palapa A2 a été lancé depuis le Kennedy Space Center aux États-Unis. Palapa A2 est un satellite de communication indonésien exploité par Perumtel. Palapa A2 a été lancé le 10 mars 1977 sur la fusée Delta 2914 et était en orbite depuis le 11 mars 1977. Palapa A2 fait partie du programme de satellites de communication Palapa A1 et A2. Le satellite Palapa A2 est conçu comme une sauvegarde et prêt à fonctionner en cas de panne de Palapa A1 ou si la demande du marché ne peut plus être satisfaite par Palapa A1. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Jangan mulai dengan pujian. Jika berakhir cacian, hindalah aku di depan agar yang manisnya belakangan. Karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud. Karena di dalam hati ini mulai terasa sedikit. Thank you. rather you be mean to me. At least then I would know the truth. I must have really hurt you to make you wanna hurt me like this. Why won't you just give me one more chance? Yang and lighting and bujian hanya untuk perhatian. Di awalnya engkau bermanis kata, lalu menusuknya belakangan. Oh, tukar pujian dengan maki sesuatu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie. Et pour le titre, Indonésie salue les résultats du référendum suisse sur IECEPA. L'Indonésie se félicite des résultats du référendum suisse qui a convenu d'une coopération économique globale avec l'Indonésie, IECEPA. Pas moins de 51,6% des Suisses ont exprimé leur soutien à la mise en œuvre de l'accord IECEPA et ont accepté de ratifier cet accord commercial lors d'un référendum organisé dimanche le 7 mars. L'accord IECEPA est un partenariat économique global entre l'Indonésie et l'EP de l'Association européenne de libre-échange, AEL, dont les membres sont la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'accord a été signé en 2018 après avoir passé 15 cycles de négociations. Après avoir signé l'accord, chaque pays doit mener un processus de ratification. Deux pays l'ont achevé, à savoir la Norvège et l'Islande. Auparavant, le processus de ratification suisse était confronté au défi de rejet sous la forme d'une pétition d'une organisation non gouvernementale suisse sur la question de l'indépendance de l'Indonésie, accusée de nuire à l'environnement. Selon la loi en vigueur en Suisse, la ratification de l'accord doit être approuvée par le public par référendum. L'accord IECEPA couvre le commerce des biens, des services, l'investissement et le renforcement des capacités, de sorte que les produits indonésiens auront accès au marché sous la forme des concessions, de l'élimination et de la réduction des tarifs. Ainsi, les produits indonésiens seront plus compétitifs sur le marché de l'AEL. L'Indonésie obtiendra la suppression de 7042 postes tarifaires suisses et liechtensteinois, 6338 postes tarifaires norvégiens et 8100 postes tarifaires islandais. Le total des exportations indonésiennes vers le marché de l'AEL en 2020 a atteint 3,4 milliards de dollars américains, avec un solde excédentaire pour l'Indonésie d'un 1,6 milliards de dollars américains. Répondant aux résultats du référendum suisse, le ministre du Commerce, Muhammad Lutfi, dans sa déclaration de lundi 8 mars, a indiqué que l'Indonésie était prête à coopérer pour accroître le commerce et l'investissement sous l'égide de l'IECEPA. Cet accord reconnaît l'esprit de coopération, de respect mutuel et d'avantages mutuels pour le produit phare de l'Indonésie, l'huile de palme et ses dérivés. Le ministre du Commerce, Muhammad Lutfi, a souligné que ce référendum avait une signification particulière pour les efforts de l'Indonésie et de la Suisse pour s'assurer que le commerce ouvert et équitable devienne un pilier de l'accord commercial. Il a ajouté que la Suisse était un partenaire commercial et économique important pour l'Indonésie et vice-versa. Ainsi, le commerce entre les deux pays augmentera plus. En outre, Muhammad Lutfi a expliqué avec la ratification de l'IECEPA par la Suisse, l'Indonésie accélérera immédiatement le processus de ratification dans le Parlement afin que la mise en œuvre de l'IECEPA puisse être effectuée immédiatement. Pangdang setang lemnis kadela koordinasyon de l'ekonomi Erlangga Hartarto adeklare kala kampanye negatif langsir kontrol lupam nap obtenu le soutien de public suisse dans la ratification de l'accord entre l'Indonésie et le pays de l'Association européenne de libre échange IECEPA. Selon Erlangga, les résultats du référendum suisse montrent une reconnaissance internationale de la cohérence et de l'engagement de l'Indonésie dans la mise en œuvre des principes du développement durable. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Tentang dirimu di hatiku terngiang semua kata-kata manis terasa belai lembutmu di jiwaku walau kau bukan milikku lagi ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi ku yakinkan bahagia kanmu hingga akhir nafas hidupku kembalilah kasih kembalilah kepadaku janganlah kau pergi. Tahu memang salahku namun takkan pernah terulang tak akan terjadi. Oh, telah ku coba untuk mencari cinta yang lain. Tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Memang salahku namun takkan pernah terulang takkan terjadi. Takkan pernah terganti. Oh, oh, takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah diri. Salahku namun takkan pernah terulang.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson.
Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs de la Voix de Midi. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, je vais vous présenter l'histoire de la gare de Pulau Air. Pulau Air est la plus ancienne gare de l'ouest de Sumatra. Après 44 ans d'inactivité, la gare sera réactivée. Le plan est que la gare soit utilisée pour accéder à un certain nombre de zones touristiques. Un budget de 40 milliards de rupiah est préparé pour relancer la gare de Pulau Air avec un nouveau réseau ferroviaire de 2,5 km jusqu'à la gare de Padang. L'un d'eux est le port de Muaro qui est l'entrée des îles Mentawai. La réouverture de la gare de Pulau Air a coïncidé avec la présence de l'aéroport international de Minangkabau avec des installations ferroviaires aéroportières Minangkabau Express. Cité du livre de l'histoire des chemins de fer indonésiens, la gare de Pulau Air fait partie du premier réseau ferroviaire de l'île de Sumatra. Le réseau a été achevé en 1891 par Sumatra State Poor Wagon, le service ferroviaire du gouvernement néerlandais des Indes orientales à Sumatra. Cette ligne de train part de la gare de Pulau Air jusqu'à Padang Panjang qui couvre une distance d'environ 70 km. La ligne continue jusqu'à la ville de Bukit Tinggi sur 90 km. Cette route a été officiellement utilisée le 1er octobre 1892 en coïncidant avec l'exploitation du port de Mahaven qui est maintenant connu sous le nom du port de Teluk Bayur. L'existence de ce réseau ferroviaire était indissociable de l'existence d'une mine de charbon à Ombilin en ville de Sawah Lunto en 1868 par le géologue célèbre des Indes néerlandaises Willem Hendrik de Greef. Initialement, la route est utilisée pour transporter du charbon, des produits de plantation et des passagers vers les ports de Muaro et Mahaven dans la ville de Padang. Le nom de la gare de Padang est le nouveau nom de la gare Simpang Haru, qui est la principale gare de Minangkabau Express. L'effort pour revivre la ligne de train de la gare Pulau Air n'est pas la chose facile. Kereta Api Indonesia ou KAI Société Anonyme a également remplacé tous les rails métalliques par un nouveau modèle et reconstruit de nouveaux bâtiments et érigé des garde-corps le long des voies ferrées. Pendant ce temps, l'ancien bâtiment de la gare de Pulau Air sera maintenu et ajouté avec un nouveau bâtiment équipé d'un certain nombre d'installations, entre autres la salle du chef de gare, une salle spéciale pour la lactation, des salles de prière, des toilettes et un nouveau quai. La gare est également équipée de parking pour 15 voitures et 40 motos. La gare est également l'accès le plus rapide à la région de Kota Lama et à Kampung Cina, les objets touristiques patrimoniaux de la ville de Padang. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Bersama walau hujan coba hentikan kita seakan miliki dunia peluk diriku takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu hanya salahku. Terlalu meninggikanmu membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kaulah masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, ku pikir kaulah masa depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, c'est la voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est bertanya tentang nomor rukun tetangga. Bertanya tentang nomor rukun tetangga. En français, demander le numéro de quartier. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé bertanya tentang nomor rukun tetangga. Bertanya tentang nomor rukun tetangga. demander le numéro des quartiers. Cette conversation se déroule entre Kevin et Boris, son nouveau voisin. Ils ont le même âge. Boris voulait connaître le numéro quartier. Bonne écoute.
Berapa nomor RT kita?
04.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Bertanya tentang nomor rukun tetangga. Bertanya tentang nomor rukun tetangga. En français, demander le numéro des quartiers. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Berapa. Berapa. Quel. Nomor. Nomor. Numéro. RT kita. RT kita. Notre quartier. Berapa nomor RT kita? Berapa nomor RT kita? Quel est le numéro de notre quartier? Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu des questions. Berapa nomor RT kita? Berapa nomor RT kita? En français, quel est notre numéro de quartier? En indonésien, le mot question berapa, berapa, quel, utilisé pour demander un numéro. La question mot, berapa, berapa, quel, peut également être posée à la fin de la question. Par exemple, nomor RT kita berapa, nomor RT kita berapa. En français, quel est le numéro de notre quartier ou RT? Voici un autre exemple de conversation pour poser des questions sur les chiffres. Boris, berapa nomor RT kita? Berapa nomor RT kita? En français, quel est notre numéro RT? Quel est notre numéro de quartier? Quel est notre numéro de quartier, Kevin? 04. 04. En français, 04. Boris, nomor RT kita berapa? Nomor RT kita berapa? En français, quel est notre numéro de quartier? Kevin, 04, 04, en français 04. Chers amis, un quartier ou RT est identifié par un numéro, par exemple RT 01, RT 02, RT 03. Dans chaque village, les quartiers ou rukun tetangga commencent généralement par le numéro 01. Le numéro de quartier est souvent écrit dans l'adresse du domicile. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Berapa nomor RT kita?
04.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bon écoute.
Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Gayo Aceh Central intitulée Tawar Sadenge, chantée par A.R. Mousse. Chers auditeurs, la région de Gayo Aceh Central est connue pour son café dans le monde entier. Gayo possède également d'autres ressources naturelles. Les populations sont invitées à protéger leurs riches naturelles l'un d'eux et à travers la chanson Tawar Sadenge. La chanson qui est souvent présente dans diverses célébrations et cérémonies à Gayo a été créée par un artiste Gayo nommé A.R. Mousse. Les paroles de la chanson Tawar Sadenge invitent la communauté Gayo à protéger et transformer leurs ressources naturelles telles que les pins, le café et le tabac. Toutes ces ressources naturelles sont la grâce de Dieu pour le peuple Gayo. Le peuple Gayo est donc invité à travailler dur pour cultiver sa richesse naturelle afin qu'il devienne maître dans son propre pays. Pour changer l'histoire, voici A.R. Mousse va chanter une chanson intitulée Tawar Sadenge. Bonne écoute.
Malan en tiber
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.